Pop, popienne, pop, popien et tous les autres aussi, bonjour. C'est vendredi, c'est podcasty, que l'on ait changé d'année ne change rien à l'affaire. Le vendredi, c'est le jour où pop, 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 aussi certainement qu'un faon se transforme en daim, puis en cerf majestueux, dont les bois finiront comme autant de trophées ou de porte-manteaux insolites sur les murs de résidences secondaires. Oui, aussi certainement, pop, pop, pop se métamorphose en pop, podcast pour vous entretenir de l'actualité foisonnante du monde féerique des podcasts. Et si vous êtes parent, le nom de notre invité va immédiatement vous parler avant qu'elle ne le fasse elle-même, puisque vous avez déjà forcément eu recours à sa voix et à son talent de raconteuse pour distraire vos charmantes têtes plus ou moins blondes. Et si vous étiez en voiture, pour qu'ils oublient un moment captivé qu'ils l'étaient par ses récits, de vous demander toutes les deux minutes si c'était encore loin. Oui, leur grand Besançon a ce pouvoir magique de captiver les 7-12 ans, public volage et turbulent par nature, qui suivent avec passion ces odyssées, laissant à leurs parents le loisir de réfléchir sereinement à des sujets plus sérieux, comme par exemple la réévaluation des montants compensatoires. Mais par quel sortilège, mais par quelle magie. C'est ce que nous allons donc tenter de découvrir dans l'heure qui vient avec la maman des Odyssées, Laure Grand Besançon. Pop Podcast, épisode 17, c'est parti.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Et bonjour Laure Grand Besançon.
Bonjour Antoine.
Bienvenue
Merci.
Dans cette émission. Alors en disant Grand Besançon, nous pourrions penser, bien que vous soyez d'une taille tout à fait normale, que vous êtes originaire de cette commune de l'Est de la France. Mais non, vous venez de Marseille. Vous êtes donc une Marseillaise de taille normale plutôt qu'une Byzantine de grande taille.
Bah, en fait, un peu des deux. C'est-à-dire que j'ai grandi à Marseille, je suis née à Toulon juste à côté. Mais il y a très 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 longtemps, il y a toute une partie de ma famille qui vient d'un petit village qui s'appelle Breuray-les-Favernais, qui est pas très loin de Besançon. Donc il y a quand même un petit point d'ancrage.
Oh. Dans cette très, très, très léger quand même.
Très léger.
Très léger.
Mais quand même là.
Bon, bienvenue à la maison, Laure Grand Besançon.
Car merci.
Rappelons que vous faites partie de cette auguste maison ronde et bienvenue dans Popa Podcast. Avant toute chose, arrivez-vous à prononcer le nom de cette émission?
Eh bien, je me suis un petit peu entraînée.
Allez-y.
Popa Pop Podcast. J'ai dit une fois de trop.
Un trop. Allez, deuxième
chance. Je recommence.
Allez.
Popa Podcast. Et non, vous voyez, non, je me suis entraînée, je loupe.
Il en manque un. Allez-y.
Pop, 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 casse.
Voilà.
À peu près,
oui.
C'est pas
sauvé
terrible,
par le gong.
Tout ça pour ça.
Bien, ça veut dire que nous pouvons poursuivre émission.
Je suis soulagée.
Vous l'avez échappé belle.
Ouais.
Ensemble, Laure, nous allons parler de vos Odyssées, le podcast que vous produisez et qui cartonne chez les 7-12 ans, ce qui veut dire que je ne suis pas exactement le cœur de cible. Et pourtant, je prends toujours beaucoup de plaisir à les écouter en compagnie de mon fils cadet. Est-ce normal?
Eh bien, peut-être que c'est votre enfant intérieur qui, d'un seul coup, s'émerveille ou se réactive ou sort de vous ou grand les oreilles.
Ou l'adulte un peu attardé que je suis.
Je ne voulais pas le dire comme ça, mais voilà, c'était l'un ou l'autre.
Je peux l'entendre, j'entends les deux. Rien qu'en écoutant votre voix, j'ai envie de prendre mon doudou et de me mettre dans mon pyjama en pilou-pilou. Mais
n'hésitez pas, Antoine, si vous l'avez là sur vous.
Regardez, j'y suis là.
Ben oui, un joli pyjama en pilou-pilou.
Oui, pour écouter vos histoires. Vous saviez que vous aviez ce pouvoir,
c'est-à-dire
bah, ce pouvoir de que des adultes s'imaginent d'un seul coup être en pyjama avec leur doudou là, écouter des histoires comme on leur racontait quand ils étaient
non,
petits.
Non, je savais pas du tout avant que ça arrive. On s'est lancé comme ça dans l'aventure et je savais pas du tout ce que ça allait devenir et j'étais super surprise avec beaucoup de joie quoi de voir le résultat. Mais non, je n'avais vraiment aucune idée. Après, ce qui était sûr, c'est que j'ai tout de suite, la première fois que j'ai parlé dans un micro, j'ai adoré ça. Ouais. Et j'ai senti que ça avait libéré vraiment un truc dans ma parole, parce que enfant, même jeune adulte, je parlais extrêmement vite, j'articulais pas du tout. Ouais. Et la première fois que j'ai parlé dans un micro, d'un seul coup, j'ai pris plaisir à parler. Mmh. D'un seul coup, les choses comme ça se sont un petit peu éclaircies et c'était vraiment.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était quoi?
Ben, je sais pas, en fait. Je pense que c'est, je sais pas du
tout
ce qui s'est
passé. Le fait de vous entendre en même temps,
Je sais pas, c'était, à cette époque, j'étais comédienne et on faisait une tournée, et on avait fait une petite interview dans une radio. Et en fait, d'un seul coup, c'était magique, en fait. Enfin, d'un seul coup, c'était posé. J'arrivais à dire des choses, sans passer par les mots des autres.
Ouais.
Et donc voilà. Donc, je savais pas que ça allait devenir ça, mais je sentais, en tout cas, il y avait quelque chose qui me disait, vas-y, continue, essaie de trouver des micros et parle de
bon, bah, écoutez, c'est l'occasion ou jamais, Laure. Vous avez un micro, on va parler dedans hein, pendant une heure. Moi, je reste dans mon pyjama et je garde mon doudou pour écouter une chanson douce d'Henri Salvador. Ah.
Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon son pouce, j'écoutais un m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux avoirs, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, qu'entre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Chanson douce pour tous les petits enfants. Pour le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. La belle princesse avait des jolis cheveux. Même caresse se vit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie.
Mais que c'est doudou ça. Et c'est avec son doudou en forme de lapin, certes surgelé puisque Picard, mais enfin lapin quand même, que Charline Roux vient de faire son entrée pour vous écouter leur grand Besançon. Bonjour Charline.
Et bonjour.
Charline, avec votre doudou, vous avez justement écouté les Odyssées de Laure. Que pouvez-vous nous en dire? Et merci de retirer le pouce de votre bouche, sinon c'est inaudible.
Des récits extraordinaires basés sur des exploits historiques, des grandes figures et des héroïnes et des héros parfois plus méconnus. Comment, Laure, est-ce que vous choisissez les aventures, les figures que vous allez éclairer et que vous allez raconter?
Eh bien, un peu au fil de la vie, je cherche un peu, je lis pas mal de choses. Il y a des enfants qui m'écrivent aussi parfois pour me proposer des sujets. Et j'ai des souvenirs d'enfance aussi, puis de fil en aiguille, comme ça, j'explore, je trouve des choses. Donc je me laisse un peu guider par le fil de l'eau. Mais après, j'aime bien penser les Odyssées et les construire comme une sorte de, voilà, de joyeux bordel organisé, où l'idée, c'est d'aller à chaque fois explorer plein de continents différents, des époques différentes, et voilà, des personnages connus, mais certains autres qu'on va un petit peu faire sortir du chapeau, qu'il y ait des femmes épatantes, des hommes épatants, des aventures collectives, des grands destins, mais aussi des moments aussi où des peuples se révoltent. Voilà, l'idée c'est de vagabonder un peu partout, et donc je me laisse un peu aller comme ça, au fur et à mesure, des rencontres, des choses qu'on me propose, que je cherche, enfin voilà, et de fil en aiguille, voilà. Mais
ça,
c'est infini
ça.
En fait, c'est infini.
Ouais. Et ce joyeux bordel organisé, les Odyssées, eh bien ça donne ça.
Cette enquête commence par une étrange histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Une nuit, alors que je dormais tranquillou, comme une saucisse enroulée dans son bacon, j'ai été réveillée par un coup de téléphone.
Allô ?
Allô ? Laure ?
Ma parole ! C'était Jimmy. Jimmy, le serveur de chez Happy Nouille.
Passe me voir au restaurant. Faut que je te parle d'un truc. Ça urge.
Depuis tout ce temps que je le connais, Jimmy ne m'avait jamais appelé. J'étais ultra inquiète. Ça sentait la grosse embrouille.
La grosse embrouille chez Happy Nouille. Cet extrait est consacré au vol de la Joconde, fait partie d'une série des Odyssées que vous avez produite en partenariat avec le Musée du Louvre, autour d'œuvres et de personnages liés justement à l'histoire du Louvre et à la grande histoire. Akhenaton le Pharaon, Henri IV, Marie de Médicis. C'est un peu comme dans les films La Nuit au Musée avec Ben Stiller, vous rendez les statues vivantes, c'est un peu ça votre but?
On les anime comme ça, on s'infiltre avec le son, et puis on leur fait dire des choses. Et puis après on s'incruste dans les maisons françaises, dans les imaginaires, et voilà, et on n'en sortira plus.
La découverte de l'Amérique, la Révolution française, la chute du dernier empereur chinois. Avec ces podcasts, vous invitez les petites auditrices et auditeurs à se plonger dans les aventures et les grandes figures de l'histoire. En fait, vous êtes un petit peu comme le Stéphane Bern des jeunes têtes blondes.
Bah, c'est tout à fait mon modèle. Vous avez mis le pied dans le mille, c'est exactement ça. Quand je suis chez moi, le soir, je pars un peu comme lui et tout. Et après,
ça veut dire que vous allez faire un ouvrage sur nos compagnons à quatre pattes, enfin les compagnons des grands de ce monde à quatre pattes.
C'est prévu, c'est prévu. Mais je ne peux pas dire en beaucoup. Je peux pas en dire plus.
Et vous mettre à la mise en pli. Hein,
ah bah, évident, bah, falloir, c'est, vous n'avez pas vu, j'ai quand même tout donné pour.
Non, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'est succédé devant votre micro, ma chère Laure, Denis Podalydès. Ou encore Charline Roux, ici présente, grande dans comédienne. Le rôle de Lady Stanhope, une grande aventurière dans le désert du Liban.
En 1806, William Pitt, son oncle chéri, meurt. Bouleversée, Esther tourne en rond, elle étouffe.
Le monde ressemble à un vieux buffet. Quand on ouvre les portes, ça pue le moisi à l'intérieur.
Pas mal.
Une femme positive, joyeuse, qui déteste la terre entière, mais qui est très sûre de son talent. Donc, du sur-mesure.
Oh, elle aime bien quand même, elle va quand même, elle va quand même à l'aventure.
Elle
ouvre des
sillons. Elle est hyper autoritaire.
Un petit peu, mais les folles dingos comme on aime bien.
Ouais. Mais alors, Charline, vous qui avez vécu cette aventure de l'intérieur, comment pourriez-vous la décrire, s'il vous plaît ?
Eh bien, écoutez, Antoine, je crois qu'on peut dire que j'ai vécu la grande aventure des mauvaises comédiennes, très très bien dirigées par des gens fort sympathiques. Et je vous rappelle d'ailleurs, mon cher Antoine, que vous aussi, vous avez prêté votre voix.
Valence, rien à dire. C'est très joli, mais...
Ah, la vie de sous-lieutenant, la barbe, qu'est-ce que c'est ennuyeux.
Patience, petit napot, patience.
Je ne suis pas une mauvaise comédienne, ok?
Non, vous êtes un très bon comédien, je n'ai rien dit de tout ça.
Un bon Napoléon.
Merci, Laure.
Alors la question peut sembler très égocentrée, mais Antoine a joué un empereur que je me défendrai de juger, et Robinson Crusoe, et Daniel Morin, Jim Lovell de la mission Apollo 13, Alex Vizorek, le chevalier d'Éon, Laetitia Gaillet, Florence Foster Jenkins, la plus incroyable des chanteuses d'opéra, Fabienne Sintès, Calamity Jane... Est-ce que c'est ce que vous projetez sur vos collègues ?
Absolument, absolument. C'est ce que je vois en eux, comme ça, je les sens. Je dis, ah tiens, c'est pour toi. Donc, je vais ressortir d'autres parties.
Les galops et résistantes.
Exactement, c'est un petit peu vous.
Non mais sérieusement, vous établissez des passerelles entre vos personnages de fiction et les gens que vous croisez dans la réalité ici ?
Bah oui, alors parfois aussi c'est par rapport à ce qu'ils font à l'antenne, ce qu'ils sont un petit peu en charge, leur univers. Du coup c'est intéressant, c'est marrant de faire des petits parallèles. Parfois c'est bien de faire des contre-pieds aussi, parfois c'est aussi tout simplement, on se dit oh là là, mince, il faut un personnage, vite, il faut qu'on l'enregistre vite, qui est là ? Et on va parler aux gens, un petit peu dans la chance, mais c'est vrai qu'on réfléchit avec les réalisatrices avec qui je travaille sur les voix, les univers, qu'est-ce qui peut être... Parce que ce qui est marrant dans le fait que ce soit des voix d'inter qui fassent des personnages, c'est que du coup, ça fait un petit clin d'œil pour les parents, qui aiment bien aussi retrouver un peu l'univers de France Inter. Du coup, on essaie de faire un peu des correspondances, un peu comme ça, des petits jeux.
Et puis le sentiment de cette grande famille que nous composons tous, nous tous qui faisons de l'antenne.
À plein de niveaux différents,
plein d'endroits différents. Ah, le petit reproche qu'on pourrait vous faire quand même, Laure, au passage, c'est que vous faites travailler tout France Inter, mais bénévolement.
C'est vrai. Oui, pour l'instant, mais je suis en train de préparer des paniers cadeaux.
Bonne nouvelle.
Avec des super pâtés, des super endives, des ananas, enfin des choses merveilleuses, quoi, pour réveiller vos papilles.
Des avoirs pour la cantine.
Pour la cantine. Regardez, j'ai des bonus pour la cantine. Attends, c'est trop bien.
Mais alors, Laure, est-ce que vous ne seriez pas l'extrême inverse des multinationales qui fabriquent des baskets, comme par exemple cette entreprise qui faisait travailler honteusement des enfants pour le plus grand bonheur des adultes? Ici, vous faites travailler honteusement des adultes pour le plus grand bonheur des enfants.
Bah, on renverse l'ordre, en fait.
C'est bien.
C'est du capitalisme inversé.
C'est ça, les odyssées.
Très démocratique.
Très démocratique.
Alors, pour écrire, vous le disiez, vous lisez énormément d'ouvrages d'historiens et de livres pour enfants. Alors, deux questions en une. À quoi ressemble votre bibliothèque et combien de temps est-ce que vous passez sur chaque épisode ?
Eh ben, la bibliothèque, elle est assez variée. Comme vous dites, il y a des livres assez costauds d'historiens, des livres pour enfants, des BD, enfin vraiment, j'utilise toutes les sources différentes, parfois des films et tout, même si je préfère vraiment travailler avec du papier, quoi, avec des livres. Et le temps d'écriture, ça varie un peu, mais quand même, en général, c'est, faut compter une semaine quand même. Entre le moment où parfois des sujets, j'y connais absolument rien. Donc, il faut d'abord que je m'en empare, que je saisisse un peu ce qui se passe, après, comment je vais pouvoir transmettre transmettre ça, construire une dramaturgie, parce que du coup, tout l'enjeu, c'est transformer des récits historiques en récits d'aventure.
Ouais.
Donc, il faut qu'il y ait des moments de suspense, de l'émotion, des moments où ça, il y a un peu de merveilleux, des tensions, voilà. J'ai dit, je redis.
Ouais.
Je me redis. Et du coup, construire ça, faire un fil dramaturgique, ensuite écrire, et après, c'est trop long.
Ouais.
Donc, on coupe, on recoupe, on recoupe, et on retravaille les blagues. On se dit, non, ça, c'est trop de blagues là, pas assez là. Donc, voilà, ça prend une petite semaine en général.
Ah non, c'est du travail. Laure Grand-Besançon, vous venez de Marseille, et c'est justement cette cité phocéenne qui vous a donné envie de raconter des histoires. Expliquez-nous pourquoi.
C'est vrai que le Marseille, ça a joué un
Marseille,
rôle.
Marseille, on raconte beaucoup d'histoires.
On raconte beaucoup d'histoires. Je vais pas faire le faute accent.
Accent, il est bien.
Il était pas mal.
Continuer. Défi. On fait toute l'émission avec l'accent marseillais.
Alors, tout le reste de l'émission, c'est un peu trop long.
Et retour à Jean Lassalle. C'est étonnant. On vient toujours
à Jean Lassalle.
Ouais,
c'est pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi toujours Lassalle, parce que j'aime beaucoup Jean Lassalle.
Là, c'est Ducrot, c'est le mec des épices.
C'est assez fin, revenez.
Pourquoi Marseille?
Parce que du coup, Marseille, c'est d'abord un endroit assez fou, parce que c'est un endroit plein de couleurs, et vraiment, ça, très petite, j'ai pris plein de couleurs dans la rétine, comme ça, et ça fait un petit peu travailler les sens. Et puis, il y avait cette proximité, ce port, et on nous racontait que les Grecs, un jour, étaient arrivés, comme ça, en bateau, et moi, ça m'avait assez fasciné. C'est vrai, d'ailleurs. C'est vrai, ça a été vérifié.
Ouais.
Mais donc j'imaginais comme ça, en scrutant l'horizon, que les Grecs allaient revenir et que voilà, ça allait. Donc cette aventure-là. Et puis aussi, Marseille s'est liée et ça contribue un peu aux Odyssées parce que c'est un port, un mélange. Et que ma grand-mère, moi, elle est chinoise. Elle est née à Shanghai dans les années 1910.
Ouais.
Et que par le plus grand des hasards de la vie, elle a vécu plein de choses. Elle a traversé plein de continents, plein de moments d'histoire. Elle est arrivée à Marseille et elle me racontait toute sa vie, comment elle a, sa petite vie a croisé la grande histoire, Mao, les guerres d'Indochine, et en fait sa vie, je me suis rendu compte plus tard qu'en fait c'était sa vie qui était une folle aventure, c'était l'ADN des Odyssées en fait, et qu'elle me racontait ça, que c'était au creux de moi depuis toujours en fait.
Charline, je sais pas pour vous, mais c'est très drôle de regarder Laure nous raconter ses histoires.
Elle parle
énormément avec les mains.
Mais je parle aussi avec mes pieds.
Avec les pieds en même temps. Ah oui, vous faites des claquettes.
Oui.
Non, elle fait des grands gestes, elle est ample, elle nous explique, elle illustre tout ça au fur et à mesure qu'elle nous le raconte.
Elle est très étonnante parce que au-delà de la voix, pour moi c'est un personnage de dessin animé, Laure. Elle a le langage, les expressions. Elle est hyper expressive, en fait, mais d'un bon animé. Hein,
ah oui, ben, merci. Vraiment.
En tous les cas, Laure Grand-Besançon, votre voix semble faite pour le conte, pour les histoires à la veillée, comme si elle laissait s'emballer l'imaginaire de ceux qui vous écoutent. Mais est-ce que ça marche aussi quand vous lisez une recette de cuisine ou la liste des courses?
Même ça marche mieux.
Ah bon?
c'est vrai que je fais un peu des caisses parfois quand
Alors essayez-moi de me dire, par exemple, 3 poireaux, 2 carottes et un sac de patates bio.
3 poireaux, un sac de patates bio, quelques courgettes et puis bien sûr, quelques fraises.
Incroyable.
Là, on n'est pas loin sur l'émission de Fédive.
Ouais, ça frôle un peu
la soupe la plus inquiétante du monde.
Je veux la suite.
Dans l'un des épisodes sortis juste avant Noël, celui sur Molière, nous avons entendu dans le rôle-titre un certain Denis Podalydès, ambiance.
Bon, comme je vous le disais, je rentre de Paris avec une très grande nouvelle. Nous avons un nouveau protecteur. Nous sommes désormais la troupe de Philippe d'Orléans, frère unique de Sa Majesté le Roi. Nous jouerons au théâtre du Petit Bourbon.
Oui, alors on dit la comédie française, l'excellence. Moi, je trouve qu'entre Antoine, moi et lui, je ne sens pas énormément de différence.
Moi, je le sens quand même. Moi, je le sens très nettement.
Comment est-ce que vous avez convaincu Denis Podalydès de participer aux Odyssées?
Eh bien, on lui a écrit, on a réécrit, et en fait, il a été assez... assez rapidement. Après, la question, c'est de trouver un endroit, un moment, etc. Mais en fait, il écoutait avec ses enfants. Et du coup, il a dit oui assez vite.
Il faut ajouter que c'est un homme absolument délicieux, Denis Podalydès.
Mais non, mais absolument.
Ah oui.
Mais
en fait, délicieux comme une soupe.
Comme aussi une soupe.
Oui, non, mais en fait,
vous êtes toujours sur les poireaux, les patates bio là.
Mais ce que je voulais pas dire qu'il était liquide. Après, je me suis rendu compte que la blague était vraiment totalement nulle. Donc, je retire la blague.
Ça dépend des jours.
Et quelle voix est-ce que vous rêveriez aujourd'hui d'entendre dans les Odyssées pour doubler un des personnages que vous avez raconté?
Eh bien, on avait essayé de contacter Aya Nakamura pour jouer Athéna. Mais c'était trop court et elle n'avait pas le temps de répondre, machin et tout. Donc, mais ça me ferait. Personnellement, je l'aime vraiment bien.
L'appel est lancé.
L'appel est lancé.
Relancé.
Ouais.
Nous parlons aujourd'hui des Odyssées avec leur créatrice, Laure Grand-Besançon, puisque chaque vendredi, nous parlons ici de podcast, dans Pop Podcast. Hein, et chaque vendredi, Charline Roux, ici présente, nous raconte des histoires de podcast, mais pop, ça s'appelle le Popcast. Jingle.
Le Popcast.
Alors, un jungle qui, contrairement aux apparences, n'est pas fait par des enfants. Allez-y, Charline.
Qui a peur du loup? Sûrement pas vous, je sais que vous en avez vu d'autres. Il n'empêche que cette bête sauvage, entre mythologie et réalité, ne cesse de fasciner autant qu'elle l'inquiète. De quoi en faire une enquête, en l'occurrence titrée « Le retour du loup », un podcast en 5 épisodes signé Olivier Vogel et Pascal Doumange de France Bleu Alsace. En 2019, le loup a fait sa réapparition dans le massif vosgien et attaqué des troupeaux, en particulier dans la vallée de la Bruche, où l'événement suscite pas mal d'émotions chez les éleveurs et les bergers. Pourquoi et comment les loups sont revenus? Où sont-ils? Peuvent-ils attaquer l'homme? Rencontre par exemple dans l'épisode 1 avec Isabelle Descombes, agricultrice dont le troupeau a été prédaté.
C'est comme dans un film d'horreur, il y a les corbeaux, vous savez, qui coassent, qui se battent et tout ça, là, qui essayent de choper ce qu'ils arrivent sur la carcasse. Et bah, du coup, je suis allée voir, hein, je me doutais qu'il y avait quelque chose de pas clair. Puis quand on arrive, ben voilà, hein, c'est le massacre, quoi. Hein. Donc... Sur le coup, ben, comme j'avais tous ces corbeaux là qui n'arrêtaient pas d'essayer de choper des morceaux de viande sur mon veau, j'ai fait venir ma voisine qui, elle, est pour le loup. J'ai rien contre les gens qui sont pour le loup. Mais du coup, elle m'a ramené une bâche pour le couvrir et quand elle a vu ça, elle m'a dit « ça m'a marqué. Tu sais, Isabelle, je suis pour le loup. Hein. Mais que dans des conditions comme ça, non. »
Alors oui, ça fait peur, mais le podcast donne aussi la parole à des gens qui connaissent bien l'animal, notamment l'éthologue Jean-Marc Landry, qui cherche lui des solutions pour apprendre à cohabiter avec lui. On y entend aussi un géographe, un réalisateur documentariste. Une enquête entre le massif vosgien, le Jura suisse et les Abruzzes. Le retour du loup, c'est à retrouver sur l'appli Radio France.
Benjamin Brio est passionné d'histoire et comme c'est un excellent vulgarisateur, il partage son savoir sur la chaîne YouTube Nota Bene, qui compte 1,95 millions d'abonnés.
Et comme il est passionnant sur tout support, vous pouvez aussi l'écouter raconter l'histoire en podcast. C'est un peu un confrère pour vous, Laure. De l'Antiquité à nos jours, à travers des émissions aux thématiques très variées, avec des entretiens dans lesquels il convie des historiens, des archéologues, le podcast s'appelle tout simplement Nota Bene, illustration avec un épisode consacré à un certain Bass Reeves.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Premier deputy Marshall noir des États-Unis en 1875, Bass Reeves est l'objet depuis une dizaine d'années d'un intérêt croissant. Grâce à plusieurs historiens qui ont sondé les archives et retracé sa vie, ce personnage a pris une place dans le récit de la conquête de l'Ouest américain. Déjà au centre de toute une littérature de western, romans comme bande dessinée, il a récemment fait son apparition dans les séries télé, notamment Gunslinger ou Watchmen, rien que ça. Bass Reeves est devenu une figure de la frontière, ce front pionnier qui progressait vers l'ouest à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Et en même temps, il est également devenu un symbole d'émancipation pour les Noirs américains. Aujourd'hui, nous allons donc revenir sur la vie hors du commun de Bass Reeves, officier de police noir dans une Amérique ségrégationniste, devenu expert dans la traque des criminels de l'ouest sauvage.
Ladies and gentlemen, the story you're about to hear is true.
Et la suite de Nota Bene est dispo sur toutes les applis.
Et de l'histoire avec un grand H, à ceux qui en écrivent, il n'y a qu'un pas, en tout cas dans cette sélection de podcasts.
Puisqu'on écoute aussi La Machine à écrire, le programme des raconteuses et des raconteurs d'histoires, que ce soit à l'écran, en roman, en BD ou en animé, le tout à l'initiative de Yannick Lejeune et Michael Cesnaud, qui ont interrogé entre autres Alexis Michalik sur le théâtre, Jérôme Genevray et Franck Victor, les co-scénaristes de La Nuée sur les films de genre, Douglas Attal, le réalisateur de Comment je suis devenu un super-héros, et Fabrice Sapolsky, co-créateur de la mini-série Spider-Man Noir sur les histoires de super, ou encore ici sur l'humour, Navo, co-créateur de Bref, et l'inénarrable Fab Caro, en démarrant par la question préalable et rituelle, qu'est-ce qu'une bonne histoire ?
Une bonne histoire, pour moi, c'est un truc qui te, dont tu sors pas. Pendant que tu le lis, que tu le regardes, que tu l'écoutes, quel que soit le support, c'est un truc qui te transporte tout le long de l'histoire. Voilà, t'en sors pas pour te dire quelle heure il est, qu'est-ce que je fais là. C'est pas très, très technique, mais c'est un truc qui te porte tout le long de l'histoire, quoi. T'es là, puis tu t'as pas envie d'en sortir, puis quand t'en sors, t'as presque envie d'y revenir, quoi.
Et toi, Navo?
Ouais, moi, je pense que c'est une histoire que t'aimes bien raconter. Tu vois, à quel point, tu t'amuses et t'es content de la raconter aux gens autour de toi au moment où t'as l'idée, tu travailles dessus. Est-ce que quand tu le pitches un peu, que tu le résumes, ça t'anime un peu ou est-ce que tu dis non, mais en gros, c'est...
Ça passe.
ouais, il se passe ça, le gars il fait ça. Tu sens toi-même si t'es motivé ou pas par ton histoire. Tu sais, des fois t'as une histoire, t'as vraiment envie de la raconter. C'est comme une blague, quoi. Tu dis, elle est marrante, j'ai quand même envie de la dire, voir si ça fait marrer les gens, quoi.
Et la machine à écrire, c'est aussi dispo sur toutes les applis.
Merci Charline. Laure Grand Besançon, on replonge dans vos odyssées dans un instant, juste après Démon. C'est un morceau signé d'une autre idole des enfants, Angèle, ici avec Damso.
Enfin ça allait, confiant de peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour je m'habitue à mes ennemis qui me tuent, et j'apprendrai toutes les vertus. J'en attends trop, je suis déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Comment manger?
Pas de gros mots radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille achromate, ne voit que violet, vert, ice. Je suis dans la zone, rageux, me suis pas la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en parlant plus. Faux rappeur, non, pour moi depuis que j'ai d'albums vendus. Très sincère, non, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Ils ont exploré autre chose, me perdre dans le cosmos. Ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes, mon cher italien. Dans leur derrière, je ferai un don de quelques futurs homo sapiens. Je suis l'avatar du game, je maîtrise les quatre éléments, je rappe, je chante, je produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer tes démons.
Comment manger?
Saint-Père. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Là-bas, elle s'est tournée vers les sciences et la magie.
S'il y a une chose qu'aucun roi ne pourra jamais me reprendre, c'est mon savoir.
Morgane, très vite, s'est révélée extrêmement douée. Elle finit par attirer l'attention de Merlin qui, impressionné par ses talents, décida de lui enseigner ses plus puissants sortilèges.
utilise les forces de l'univers. La nature, c'est elle qui te donnera la puissance. Tu verras, la vie de magicien, c'est génial. On peut se transformer en chèvre, en biche, en oiseau.
Un extrait des Odyssées de notre invité Laure Grand-Besançon, consacré à la fée Morgane et qui sera diffusé au mois de février, c'est ça ?
Oui, il va sortir le 16 février.
Mais bien.
La voix Morgane avait la voix de Rebecca Manzoni ou j'arrivais ?
C'est tout à fait ça, ouais. C'est Rebecca Manzoni
et Merlin,
c'est Jean Lebrun. Voilà.
Certaines de vos Odyssées, Laure, concernent des personnages et des événements historiques ou mythologiques et d'autres des légendes, comme on vient de le voir, mais comme le roi Arthur ou encore des êtres imaginaires comme Nessie, le monstre du Loch Ness. Comment faire comprendre la différence à un jeune public ?
Eh bien, je pense qu'ils le comprennent tout seul, en fait,
ouais.
Naturellement, parce que quand on est sur le terrain d'une légende, il y a plein de petits codes comme ça. Je pense que j'utilise un petit peu sans tout à fait m'en rendre compte, mais c'est pas du tout le même univers sonore aussi. Et puis, je pense que la distinction se fait assez naturellement, en fait, entre les deux univers, quoi. Le
par
réel
exemple,
et l'imagination.
Par exemple, Nessie, elle existe vraiment ou pas ?
Ah ben, l'enquête est toujours ouverte.
Oui.
Mais après, il est sous la table. il se cache à France Inter. Mais Nessie, pour le coup, c'est évidemment un animal légendaire, imaginaire, mais c'est une vraie enquête.
Mm-hmm.
Donc, parfois, l'enquête permet comme ça d'introduire les légendes et de voilà. Après, parfois, on ouvre ces grands cycles sur l'Iliade, l'Odyssée, etc. Mais ça, je pense que les gens naviguent bien là-dedans.
Mais on peut aussi partir du principe que la littérature, c'est aussi de l'histoire, donc ça peut vous ouvrir d'autres champs sur les figures à traiter, j'imagine.
Oui, tout à fait. Après, l'idée, c'est de soit donc raconter ces grandes aventures de l'histoire, soit transmettre des grands récits fondateurs, en fait. Robinson Crusoe, que vous avez interprété, Antoine, l'Iliade, l'Odyssée, enfin tous ces grands récits qui, en fait, font partie de notre culture et de notre histoire, patrimoine commun, quoi.
Mmh. Alors, plus sérieusement, raconter des histoires à des enfants, c'est un geste absolument immémoriel, ancestral, universel. On pourrait croire qu'à l'heure des smartphones et des jeux vidéo, ça ne marcherait plus, mais c'est exactement le contraire. Comment est-ce que vous expliquez ce succès, Laure ?
Parce que je pense qu'en fait, raconter des histoires à des gens, c'est un besoin fondamental, qu'on soit enfant ou adulte. On a tous besoin, tous envie d'entendre une bonne histoire et que ça ne changera jamais. C'est des choses, des invariables de la vie. C'est notre nourriture. On en a besoin comme de l'air pour respirer.
C'est une bonne nouvelle, comme de l'air, dit-elle.
Mais est-ce qu'il vous est déjà, vous, arrivé de rester scotché, surprise, passionné par la force des histoires que vous avez racontées ? Celles sur lesquelles vous avez eu à travailler.
Oui, mais toutes. C'est pas pour rien qu'elles épatent tout le monde. C'est qu'il y a vraiment à chaque fois.
Votre préférée ?
Je me suis un peu embourbée là.
Votre préférée, une qui vous a particulièrement marquée ?
Eh bien, les cycles un peu mythologiques, quand même. L'Iliade et l'Odyssée, par exemple, qu'on a fait l'été dernier. C'était vraiment un bonheur infini de se replonger dans ces textes et de redécouvrir, parce que je les avais un peu perdu de vue, et de voir à quel point l'Iliade, par exemple, c'est un texte fondamental, évidemment, mais surtout hyper trivial, hyper guerrier, drôle, vulgaire, avec des éclats comme ça de plein de couleurs différentes, et c'est hyper riche. C'était vraiment un grand bonheur.
Et tout ça en restant au récit, à cette tradition orale. Ça veut dire qu'un dessin animé n'est pas à l'ordre du jour avec les Odyssées ?
On s'était posé la question, et là, on ne sait pas très bien où ça en est, parce qu'après aussi la grande question du podcast aussi, là où c'est intéressant, c'est que c'est aussi une façon de faire barrière aux écrans.
Ouais.
Et on ne sait pas trop encore. Ça a été évoqué, mais.
Mais vous dites qu'à titre personnel, la radio vous permet d'écrire et de développer l'imaginaire. J'imagine que c'est aussi ce que vous cherchez à faire en racontant uniquement sur ce support-là.
Tout à fait. J'ai grandi avec la radio. Chez moi, j'écoute tout le temps la radio. J'ai besoin de ces voix. Ça me rassure. Par exemple, il y a des gens qui chez eux mettent de la musique. Moi, ça me tend, en fait. Ça me stresse. Mais quand j'écoute la radio, il y a un truc comme ça qui s'apaise. Et donc, ce rapport à l'oralité, évidemment, c'est ce que je chéris.
Ouais.
Et puis, dans cette oralité, ce qui, pour moi, est vraiment passionnant, c'est que c'est une oralité, mais qui a d'abord été construite et écrite. Du coup, ça fait ce pont de l'écriture, qui est un peu mon dada.
Moi, quand je mets la radio chez moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'appartement.
Mais peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'appartement.
Et vous ne savez pas.
Oh. Bon, alors, pas de dessin animé, mais un livre, oui, un livre inspiré du podcast qui est à retrouver aux éditions des Arènes et dans lequel on retrouve 12 récits illustrés par 12 illustratrices et illustrateurs. Tous ceux qui ne connaissent pas vos Odyssées, vous, pour cela, vous leur conseillez de commencer par le livre ou par les podcasts?
L'un ou l'autre. De commencer l'un ou l'autre selon les envies, en fait. Ouais, ça marche vraiment dans les sens, selon les envies, selon les enfants. Il y a des gens qui vont aimer découvrir le livre et après, hop, vont aller vers le podcast. Des enfants qui peut-être préfèrent, voilà, qu'on leur raconte des choses et puis après, vont aller vers le livre. C'est l'un ou l'autre. Tous les chemins sont bons.
Et Laure Grand Besançon, dans ce podcast, vous faites tout, du choix des sujets à l'écriture en passant par les recherches. En revanche, vous ne faites pas la réalisation. Attendez, ne seriez-vous pas un peu tir au flanc, Laure Grand Besançon?
Ben, c'est ce qui paraît bien, ouais. C'est ce qui paraît bien. Un petit tir au flanc. Alors je fais tout, mais je travaille avec des gens. Par exemple, pour la documentation, je travaille avec Fanny Leroy, qui m'aide à faire les recherches, trouver les bons livres, etc. Et c'est hyper précieux, parce que ça me fait comme une sorte de guide un peu dans le sujet. Et après, la réalisation, non, j'ai aucune compétence. Et heureusement, merveilleusement, je travaille avec plusieurs réalisatrices d'immenses talents. Ça s'appelle Anne-Sophie Ladonne, Hélène Bizio, Anne Nuro, Fanny Bouillon, Céline Ella, et qui vraiment, parce que quand on a créé les Odyssées, on avait vraiment une envie, c'était de vraiment plonger, d'abord donc créer des grands récits aussi fortiches que ceux qu'on crée pour les adultes, ça c'était vraiment mon envie, et puis plonger vraiment les enfants dans cette merveilleuse bain qui est le son. Et je sais que dans l'écriture je m'appuie beaucoup sur le son et on est très raccord avec elle et c'est vraiment de la dentelle, enfin c'est merveilleux quoi ce qu'elles font.
Mais et lui aussi, nous travaillons avec un réalisateur et lui aussi n'a aucune compétence particulière. Il s'appelle Ghislain Fontanus, c'est pourtant on le garde,
on l'adore. Voilà. Il est formidable. Mais puisque vous parliez du son, tous ceux qui ont écouté les Odyssées pourront entendre dans cette émission que votre voix des Odyssées, puisque vous en êtes la narratrice, est assez conforme à votre voix parlée. Est-ce que vous la travaillez d'une manière particulière ou est-ce que vous êtes dirigée d'une manière particulière quand vous enregistrez les Odyssées?
Eh ben, un peu les deux. Alors c'est marrant que vous disiez que j'ai la même voix parce que souvent les gens disent mais vous avez pas du tout la voix des Odyssées.
Si on sent quand même.
mais en fait, la narration, elle a vachement évolué en fait au fur et à mesure. Et du coup, c'est venu un peu naturellement, me poser un peu comme ça. Et puis après, en travaillant, les réels aussi m'aident beaucoup. On discute pas mal sur le voilà, rester concret, utiliser tous les registres sonores et tout, donc ça fluctue quoi.
Ce podcast Les Odyssées connaît un record d'écoute avec vos 18,5 millions d'auditeurs en 2 ans et un pic à noter pendant le confinement. Rassure-moi, vous n'en espérez pas pour autant un nouveau confinement. Alors.
J'ai pris chaque jour.
Pour vous priez tous les jours. Voilà. Oui, pour qu'un nouveau confinement
arrive. S'il vous plaît, confinez-nous.
Les Odyssées, c'est signé Laure Grand Besançon, c'est un podcast France Inter et nous allons en reparler dans un instant. Ça veut dire, je profite de cette phrase pour alerter Ghislain Fontanus en régie, qui s'était un peu assoupi, et lui dire que voilà, il va falloir qu'il lance un petit jingle dans un instant pour annoncer les Pop News.
Et on démarre par un podcast animé par des femmes et qui parle des femmes, mais pas n'importe lesquelles.
Hello and welcome to The C Word, the show where we discuss women who society deemed mad, sad, or just plain bad.
In short, we're going to talk about women who've been called crazy. I'm Alyssa Bennett.
And I'm embattled star Lena Dunham. And we will never call you crazy.
À la présentation, vous l'avez entendu, Lena Dunham, la femme à qui l'on doit la série Girls et qu'on ne remerciera jamais assez pour l'apparition sur nos écrans d'Adam Driver, et Alyssa Bennett, qui est autrice et scénariste. Ensemble, elles parlent, je cite, de toutes les femmes conspuées que l'on a à un moment ou à un autre traitées de folles. La liste est donc très longue, de Marie-Antoinette à Maria Carey, en passant par Yoko Ono ou encore Judy Garland. Et si... C'était Yoko Ono. Et si vous voulez aller jeter une oreille, ce que je vous conseille vivement, le podcast s'appelle The C Word. Le mot en question est un jugé bien vilain. Et voici un podcast qui mélange 2 centres d'intérêt sur le papier bien opposés, la musique et le crime. Si on part du principe que la musique adoucit les mœurs, bien sûr, mais non. Disgraceland, c'est le titre et c'est ce que l'on appelle un true crime, racontant des histoires de musiciens criminels qui s'en sont sortis sans peine de prison ou qui, à minima, se sont très mal comportés et ils sont légion.
Fleetwood Mac, caught up in cults and cocaine. Ray Charles busting up musical genres and busted by the feds. Black Sabbath literally on fire. Tommy James making that money for the mob. Paul McCartney behind bars. John Lennon under surveillance. The tragic life of Eric Clapton. The tragic death of Dimebag Darrell. And just exactly how peaceful and loving was Woodstock.
Ça s'appelle Disgraceland par Jake Brennan et c'est dispo sur Amazon Music.
France Inter. Pop, pop, pop.
Antoine de Caunes.
Yoko Ono.
Mais oui, bien sûr. Bravo, Charline. Alors, Grand Besançon, dans la suite de Pop Podcast. Nous parlerons de podcast, de podcast et encore de podcast. Ce sera juste après ce morceau, California Love. Dr. Dre, Roger Troutman, c'était California Love et vous avez vu, Charline, je n'ai pas dit le Dr. Dre.
Félicite, Antoine.
Mais merci, oui, on fait des progrès en 2022. Vous écoutez Pop Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast. Oh, mais quoi, c'est Cosmo Flash, Thomas Biasi qui vient d'atterrir parmi nous. Bonjour.
Bonjour Antoine. Bonjour tout le monde.
Bonjour. Comment ça va,
Benjamin? C'est à vous, quoi.
Bonne année.
J'ai l'impression. Oui,
ouais.
Bonne année, allez, bon.
Ah ouais, bah voilà. Bon, ben voilà, cette semaine, je fais un petit pas de côté pour la nouvelle année. Je vais vous parler un peu des tendances globales que j'ai observées dans le secteur du podcast à l'international.
Bon, ben allez-y, faites-le, ce pas de côté, Cosmo.
Voilà, et pour simplifier, je vous raconte ça en trois points.
Non, alors attendez, c'est une façon de parler. Rapprochez-vous un peu du micro, quand même.
Ouais, donc voilà, pour commencer, les deux, voire trois dernières années ont été pour le secteur du podcast un fort moment de consolidation économique. Mmh. On est passé d'un marché très horizontal avec beaucoup d'acteurs indépendants à un marché dominé par des géants autour desquels gravite aujourd'hui l'essentiel de l'activité économique et créative du secteur. Mmh. Et tout ça, c'est le fruit d'une stratégie de développement très agressive. Pour vous donner un exemple, en 2019, Spotify annonçait un budget de plus de 500 millions de dollars pour effectuer des rachats de plateformes concurrentes, de studios de production et de podcasts célèbres comme le fameux Joe Rogan Experience. Mmh. En seulement 3 ans, Spotify est devenue une plateforme incontournable pour écouter des podcasts, si bien qu'elle menace désormais Apple, leader historique du secteur. Ce succès fait vraiment des envieux. Au cours de l'été, Amazon Music a déboursé 80 millions de dollars pour faire l'acquisition de un podcast qui s'appelle Smartless.
C'est hyper
et
bien.
C'est animé par Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett.
Mmh. My name is Jason Bateman.
My name is Sean Hayes.
I'm Will Arnett, and I'm an what am I saying?
Oh no, you're not at a meeting right now.
You're not in a meeting.
You're doing a trailer for a podcast.
Got it. This summer, because it is this summer,
and this is a podcast, not a film, so we don't need like an in a world trailer.
Right, we don't have to be like this summer. Our new podcast drops. I guess would it be drop?
That's too hip.
Yeah, it's too hip.
Voilà, le concept est très simple. Dans chaque épisode, l'un des autres révèle un invité mystère aux deux autres et discute avec elle ou lui pendant une heure. Donc c'est pas super original, mais ce rachat est assez emblématique de ce qui se passe dans le secteur. Les gros investissements se dirigent principalement vers les voies déjà connues. Et les petits créateurs sont un peu laissés sur le bord de la route.
Vous avez eu des demandes internationales pour nous racheter, nous, Cosmo ?
Malheureusement, non, pas encore. J'en ai pas reçu là.
Enchaîné.
Bon, par contre, pour remédier à cela, les plateformes d'écoute permettent désormais aux podcasteurs de proposer des abonnements payants à leur production. Donc vous allez bientôt peut-être payer pour écouter votre podcast préféré. C'est déjà le cas depuis longtemps en Chine. Là-bas, le paysage est complètement différent. Les gens écoutent en grande majorité des contenus de développement personnel, des cours de langue ou de savoir-vivre. Et ils paient les créateurs directement à travers leur application d'écoute. Mmh. Donc pour le moment, c'est peu répandu chez nous. Mais on constate que ce sont surtout les studios de production professionnels qui en bénéficient de ces nouvelles fonctionnalités. Mmh. Et donc un exemple, le studio Pushkin Industries aux États-Unis, qui est donc à l'origine de Deep Cover, dont j'ai parlé dans une précédente chronique, qui propose un flux payant pour accéder aux nouvelles saisons de ses podcasts avant tout le monde ou à des épisodes exclusifs. Et c'est le cas d'une série d'interviews avec le légendaire producteur de musique Rick Rubin.
Génial. I first met Rick Rubin years ago at someone's house in Los Angeles. He's impossible to miss. Long white beard, low soft voice, one of the great music producers of our time. He was there at the birth of hip hop. He produced Jay-Z's 99 Problems. He did 5 Chili Peppers albums. Produced Adele's 21, Tom Petty's Wildflowers. He resurrected Johnny Cash. I could go on.
Voilà, en gros, c'est l'introduction au personnage de Rick Rubin, qui a produit à peu près tous les bons disques de rap et de métal dans les années 90 et qui a notamment remis au goût du jour Johnny Cash. Mm-hmm. Et enfin, et c'est le dernier point à retenir de ces tendances globales pour l'année, on peut se demander si, dans ce contexte, les producteurs indépendants ont encore leur place dans le monde du podcast.
Et alors ? Mais oui, bien sûr qu'ils l'ont, les producteurs indépendants.
C'est un peu plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Parce que pour une bonne partie de la communauté des podcasteurs, notamment aux États-Unis, tous ces changements ressemblent un peu à la fin d'une ère, à la fin de la promesse originelle du podcast, c'est-à-dire un média plus calme, moins compétitif, mais surtout ouvert à toutes les voies et facile d'accès. En fait, je pense qu'on assiste plutôt à un changement de génération et l'avenir du podcast indépendant passera probablement par une réinvention des formats, des écritures et des concepts qu'on connaissait déjà.
Genre le retour de la cassette, quoi.
Pas tout à fait, mais je vous ai pris un exemple, ça s'appelle Frog of the Week, donc c'est un podcast qui, comme son nom l'indique, vous présente chaque semaine une espèce de grenouille différente en 3 minutes.
Pardon ?
Male dancing frogs also, well, dance. They extend one of their back legs to its full length and spread out their toes. This signature move is known as foot flagging. And if I had to guess, it will probably be put on Fortnite at some point, without any accreditation or compensation for the frogs. I like this frog because I think it's cool that they go the extra mile with their courting rituals.
Parce que moi, Frog of the Week, j'avais compris le français de la semaine. Pas du
Et
tout.
Non, pas du tout. Là, l'animatrice Kim, elle nous présente en détail la grenouille dansante. C'est une espèce particulière. Elle nous explique tout en douceur. Donc, le mouvement de danse de la grenouille sera probablement peut-être un jour copié par le jeu Fortnite, un moment ou un autre, et qu'elles n'en tireront bien évidemment aucun profit, ce qui est plutôt dégueulasse pour les grenouilles. Bon, voilà, c'est un format plutôt unique, loufoque, minimaliste. De là à dire que c'est l'avenir du podcast en 2022, il n'y a qu'un pas, ou qu'un saut de grenouille peut-être.
Non, il n'y a qu'un pas ou qu'un saut de grenouille peut-être. C'est votre conclusion, ça?
Je suis désolé. Nouvelle année.
Bien. Merci, Cosmoflash. Ah, mais il est en train de repartir. Et là, mes feuilles ne s'envolent pas cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti?
Est-ce qu'il est parti en courant,
oui, exceptionnellement? Il est parti très lentement, façon grenouille, oui. Vous avez appris quelque chose, Laure Grand Besançon?
Mais j'ai pris plein de notes. J'ai noté plein de mots. J'ai écrit Frog of the Week parce que je vais écouter.
Frog of the Week.
Spotify, j'ai marqué aussi. Je ne sais pas pourquoi. J'étais nerveuse. Non, mais je vais taper sur Wikipédia pour voir ce que c'est.
Dans un instant, ce sera à votre tour de nous conseiller un podcast, Laure. En attendant, en 2021, je conseillais d'écouter le podcast de Bruce Springsteen et de Barack Obama.
De qui, pardon?
Bruce Springsteen. Et comme c'est toujours le cas en 2022, pour vous plonger dans l'ambiance du boss, je vous propose, et c'est une petite dédicace à Tiara et Alain Chabat d'écouter And Got You. I got the fortunes of heaven and diamonds and gold. I got all the bonds, baby, that the bank could hold. Well, I got houses across the country, honey, in the hand. And everybody but it wants to be my friend. Well, I got all the riches, baby, any man ever knew. But the only thing I ain't got, honey, I ain't got you. I got a house full of Rembrandt and priceless art, and all the little girls that wanna tear me apart. When I walk down the street, people stop and stare. Well, you think I'm at the thrill, but baby, I don't care, 'cause I got more good luck, honey, than old King Faroo. But the only thing I ain't got, baby, ain't got you. I got a big diamond watch sitting on my wrist. I try to tempt you, baby, but you just resist. I made a deal with the devil, babe, I won't deny. Until I got you in my arms, I can't be satisfied. I got a pound of caviar sitting home on ice. I got a fancy foreign car, brides like paradise. I got 130 women knocking down my door, and folks want to kiss me. I ain't seen before. I've been around the world and all across the seven seas. Been paid a king's ransom for doing what comes naturally. But I'm still the biggest fool money this world ever knew. 'Cause the only thing I ain't got, baby, I ain't got you. And Got You dans Pop 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 sur France Inter, morceau signé de certain Bruce Springsteen. Et petit scoop, c'est moi qui tapais sur le morceau de bois derrière.
Alors là, je ne vous crois pas trois secondes. Puisque je vous entends battre la mesure avec vos pieds, je me rends compte que c'est pas tout à fait synchrone entre la musique et vos pieds.
Laure Grand Besançon, vous ne le savez peut-être pas, mais ici nous avons une chronique qui s'intitule Le Podcast. C'est le podcast que l'on conseille à un ami, en référence évidemment au coup de fil à un ami de Jean-Pierre Foucault au Jungle. Et le podcast que vous voulez conseiller à un ou une amie, c'est l'Insomniaque de Camille Jusot sur Arte Radio, soit une immersion dans des mondes nocturnes pour découvrir des fêtards ou encore des cambrioleurs.
Tu passes à l'acte en général après minuit. Après minuit et même plus tard possible, c'est mieux. Quoi. Et avant 5 heures. À deux, en général, c'est mieux. Tu travailles mieux. Tu as plusieurs yeux, tu es à l'entraide. Et en cas de pépin, à deux, c'est mieux. Après, il y a des moments, il n'y a pas le choix, il faut y aller à 3, 4, 2 fois 5. Parce que quand il va à 5, c'est que tu as un objectif bien précis. On doit chourer une machine qui pèse lourd, ou j'ai besoin de deux chauffeurs, ou d'un guetteur. Et là, tu prends vite des risques. À 5, ça merde souvent.
Laure Grand Besançon, nous aimons ce podcast au point d'avoir invité ici même Camille Jusot. Mais pourquoi vous plaît-il tant à vous?
Parce que je trouve qu'il est merveilleusement construit. D'abord, je trouve que le choix du sujet est vraiment hyper original, intéressant. Voilà, original de se plonger comme ça, de faire ces rencontres nocturnes. Elle trouve des personnages fabuleux. Enfin, ce cambrioleur, il est complètement dingue à écouter. Enfin, c'est fou. On est avec lui comme ça. Il décortique, il raconte sa vie, comment il fait, ses processus. De l'autre côté, il y a les gendarmes. Enfin, bon, c'est hyper bien choisi et hyper bien construit. construit parce qu'il y a vraiment donc c'est du reportage, mais elle fait aussi une narration que je trouve vraiment très bien écrite parce qu'il y a pas un mot qui dépasse. C'est vraiment, moi j'adore ça. C'est le, elle nous offre le condensé le plus pur, le jus quoi, le plus merveilleux diamant. Il y a rien qui dépasse quoi. Donc je trouve que c'est merveilleusement bien construit, merveilleusement bien trouvé, et moi j'ai fait des rencontres fabuleuses quoi. Ce cambrioleur, il y a un épisode aussi entre une mère et une fille qui s'appelle Vodka et Grenadine, où la mère est danseuse à Marseille, donc elle part la nuit, elle raconte comment, pourquoi elle adore tant ce monde de la nuit, ce que ça lui fait de danser, d'être dans cette foule qui d'un seul coup s'unit à l'unisson. Et de l'autre côté, il y a la petite fille qui raconte ses nuits sans sa mère, qui raconte sa mère, etc. Enfin, c'est vraiment merveilleux, quoi.
C'est vraiment merveilleux. Ça s'appelle L'Insomniaque de Camille Jusot sur Arte Radio. Et c'est la recommandation de Laure Grand Besançon qui était notre invitée aujourd'hui. Merci Laure.
Merci infiniment.
De nous avoir rendu visite. Vos Odyssées sont à retrouver sur les plateformes et sur franceinter.fr. Et j'en profite pour annoncer que les prochains épisodes arrivent mi-février. On va parler de la fée Morgane, hein, j'ai bien compris.
Exactement.
La fée Laure Morgane. Oh.
Un petit peu effrayant.
J'espère qu'elle est effrayante. À noter également Les Odyssées, le livre qui est à retrouver aux éditions Les Arènes. Merci encore.
Merci beaucoup.
Et merci Charline.
Mais merci à vous.
Et à lundi. Et merci Cosmoflash. Ah, c'était juste pour vous tester, pour voir si vous alliez répondre ou pas. Mais non, parce qu'il est parti. Mais
ouais,
oui,
ouais,
mais alors qu'en fait, il est en face de moi. Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Alexandre Chenet qui était à la technique aujourd'hui.